Une fois que je me trouvais sur l'île de la Dominique et que je me promenais sur la berge, j'ai rencontré des pêcheurs qui réparaient leurs filets et qui s'apprêtaient à prendre la mer. Ils étaient pauvrement vêtus et à les entendre parler, ils n'avaient pas dû user beaucoup de fond de culotte sur des bancs d'école. C'est un peu l'image qu'on se fait des pêcheurs dans les pays du tiers-monde. Or, c'est aussi ce qu'était la majorité des apôtres du Christ. Après la mort et résurrection de Jésus, ils étaient déroutés. Ils avaient bien reçu l'ordre de l'attendre, mais ils commençaient à trouver le temps long, à se sentir seuls et même abandonnés. Comme Pierre avait une famille à nourrir, il a soudainement eu un éclair de génie et a dit à d'autres disciples « Je m'en vais pêcher ». Étant donné qu'il était leur chef, ils l'ont tous suivi et se sont retrouvés en barque sur le lac de Galilée. Pierre et son frère André étaient des professionnels de la pêche. Ils avaient monté leur affaire sur le lac de Galilée et elle marchait plutôt bien. À l'origine, ils étaient de Bethsaïda, à l'extrême nord du lac de Galilée, mais éventuellement, ils sont allés s'installer à Capernaum, au nord-ouest du lac, parce que ce village étant plus grand que Bethsaïda, il y avait davantage de clients pour leurs poissons. De profession donc, Pierre était un simple pêcheur et pas un professeur érudit. Oui, mais il avait quand même passé 3 ans et demi avec le maître, ce qui se voit d'emblée quand on commence à lire sa première épître. Dans les 5 premiers versets, il mentionne une série de concepts théologiques comme l'élection, la préscience de Dieu, la sanctification, la trinité, la régénération, l'espérance du croyant, la résurrection, le salut, mais aussi la valeur du sang du Christ, l'obéissance à Dieu, sa miséricorde et l'héritage des élus. La façon dont il parle de certaines doctrines chrétiennes ainsi que son style littéraire superbe et son vocabulaire recherché montrent qu'il n'était pas resté un simple pêcheur ignorant. Cela dit, c'est Sylvain, aussi appelé Silas, qui a couché les mots sur le parchemin, mais c'était une pratique courante de l'époque. En effet, dans l'Antiquité, la plupart des rédacteurs de lettres avaient recours au service d'un secrétaire de métier et Paul et Pierre ne font pas exception. Ces plumes pouvaient être de simples greffiers, des copistes ou bien jouer un rôle plus important de composition, de révision ou même de co-auteur dans la rédaction de la lettre. Il est donc possible que Sylvain et Timothée ait participé activement à la rédaction de certaines lettres de Paul, car l'apôtre les mentionne à plusieurs reprises comme co-expéditeurs de ses lettres, ce qui était une pratique rare. Pour ce qui est de la première épître de Pierre, il est donc possible que Sylvain ait participé à sa rédaction, peut-être en lui suggérant quelques tournures de phrases et en l'aidant avec certaines subtilités grammaticales. Mais cela n'enlève en rien au don d'orateur de Pierre. D'ailleurs, dans un passage du Nouveau Testament, on lit que les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Il faut savoir qu'à cette époque, ne pas avoir d'instruction ne voulait pas dire être ignare, mais simplement ne pas avoir été formé à la tradition rabbinique. C'était le cas de Pierre, mais après plus de 30 ans de ministère, il avait en toute probabilité une parfaite maîtrise de la langue grecque, ce qui se voit à son style rhétorique et à sa facilité à utiliser des métaphores. Au lieu d'être illettré, Pierre aurait facilement pu ouvrir et diriger une faculté de théologie, et c'est ce qu'il a fait, du moins presque, puisqu'il fut le premier chef de l'église de Jérusalem. Au travers des siècles, certains ont désavoué Pierre comme l'auteur de l'épître qui porte son nom, mais tout bien considéré, il existe une montagne d'évidence en sa faveur. Je vais donner quelques exemples. Entre cette lettre et les sermons de Pierre que nous rapporte le livre des Actes, on trouve des parallèles qui montrent que c'est bien le même homme qui parle. À la Pentecôte, dans son premier discours, il dit aux Israélites « Jésus a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et dans cette première épître, il complète cette affirmation en disant aux Juifs, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Dans le livre des Actes, Pierre dit, Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Et dans cette épître, il répète la même vérité quand, parlant des païens, il dit « Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts ». Un autre exemple encore plus convaincant est un psaume que Jésus cite pour faire allusion à son rejet par les chefs juifs et que Pierre mentionne aussi et à deux reprises. Alors que Jésus enseignait dans le temple, les chefs des prêtres et les responsables du peuple sont venus lui lancer un défi. À cette occasion, il leur a dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et c'est un prodige à nos yeux. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque. » Et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Pierre était présent quand Jésus a dit ces paroles. Plus tard, quand il explique au grand conseil juif la guérison miraculeuse qu'il a réalisée sur un homme infirme, il dit « C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre. » rejeté par les constructeurs, par vous, et qui est devenu la pierre principale à l'angle de l'édifice. Et dans sa première épître, il enfonce le clou quand il écrit « Pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. » Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Un dernier exemple qui montre que l'apôtre Pierre est bien l'auteur de cette lettre a également trait à des paroles de Jésus. Dans le dernier chapitre de cette première épître de Pierre, il s'adresse aux responsables de l'Église. Après leur avoir rappelé qu'il a été témoin des souffrances du Christ, il leur dit « Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. » Or, le seul autre endroit du Nouveau Testament où apparaît le mot traduit par « prenez soin » est quand Jésus confie à Pierre cette tâche spécifique et lui dit « Prends soin de mes brebis. » Les écrivains chrétiens des premiers siècles comme Polycarpe, Clément d'Alexandrie, Tertullien, Irénée et l'historien Eusèbe de Césarée, par exemple, considéraient cette épître inspirée de Dieu, son auteur étant le Pierre des Évangiles et du Livre des Actes. Le contenu de cette épître ainsi que le témoignage de l'histoire de l'Église soutiennent ce point de vue au-delà de tout doute raisonnable. Les deux épîtres de Pierre révèlent que son auteur est un homme qui a beaucoup changé. Alors qu'il avait l'habitude de parler avant de penser à ce qu'il allait dire, maintenant il est posé et réfléchi. D'impétueux, il est devenu patient. À l'origine, il s'appelait Simon, un nom qui désigne huit autres personnes dans le Nouveau Testament. Mais lorsque Jésus l'a rencontré la première fois, il a changé son nom et l'a appelé Céphas, un mot araméen qui en grec est Petros. Dans les deux langues, il signifie caillou, bout de rocher et c'est ce que Pierre est devenu. La description par Jésus de la future force de caractère de Simon devint son nom personnel. Dans les évangiles, Pierre est quelquefois appelé Simon dans des situations mondaines, mais surtout quand Jésus le réprimande. Quand Simon adopte la bonne attitude, il devient Pierre, et après la Pentecôte, il sera toujours Pierre le roc. Pierre est le seul personnage dans le Nouveau Testament à s'appeler de ce nom, ce qui me fait dire que le Seigneur l'a voulu ainsi, afin qu'on le confonde avec personne d'autre. Tout comme Jésus est unique, Simon-Pierre l'est aussi. C'est lui, l'apôtre, qui a ouvert le royaume de Dieu aux Juifs, aux Samaritains et aux païens, mais il semble surtout avoir consacré son temps à l'annonce de la bonne nouvelle aux Juifs. En effet, l'apôtre Paul déclare « Jacques, Pierre et Jean nous ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion, et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis qu'eux se consacreraient aux Juifs. » Pierre a commencé son ministère comme dirigeant de l'église de Jérusalem. Il fut emprisonné, puis miraculeusement délivré. Suite à cet incident, il a passé le bâton de commandement à Jacques et a commencé un ministère itinérant, probablement en Asie mineure, la Turquie actuelle. Après le concile de Jérusalem, Pierre disparaît des pages du livre des Actes qui raconte les débuts de l'Église et il ne réapparaît que dans les deux épîtres qui portent son nom. D'après deux lettres de l'apôtre Paul, Pierre a fait une halte dans les villes d'Antioche et de Corinthe. Pierre adresse cette épître à des croyants dispersés dans cinq provinces romaines de la péninsule d'Asie mineure et qui sont énumérés dans l'ordre qui correspond à l'itinéraire emprunté par Sylvain, le porteur de la lettre. Il s'agit du Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Les églises de ces provinces étaient mixtes. Il y avait autant de juifs que de païens. On sait que Paul a visité la Galatie et l'Asie, mais on ne sait pas comment la bonne nouvelle de Jésus-Christ est parvenue au Pont, en Cappadoce et en Bithynie. En toute probabilité, ce sont des juifs convertis à la Pentecôte ou par le ministère de Paul qui ont évangélisé ces provinces. Au moment de la rédaction de sa première épître, Pierre dit être à Babylone. On pense tout de suite à l'ancienne capitale du vaste empire de Nabuchodonosor en Mésopotamie. Cependant, cette région était peu habitée, même s'il existait à Babylone une communauté juive bien établie. Il est peu vraisemblable que Sylvain et Marc se soient trouvés dans cette ville en même temps que Pierre. Il existait bien une Babylone égyptienne, mais ce n'était guère plus qu'une garnison romaine qui est maintenant le Vieux Caire. Dans le livre de l'Apocalypse, la capitale de l'Empire romain reconstituée a pour nom Babylone, parce que c'est le haut lieu de l'idolâtrie et de la débauche, tout comme la Babylone antique et Rome au 1er siècle. De plus, la haine envers les chrétiens devenait de plus en plus forte. Ils étaient victimes de violences verbales et psychologiques. Pierre ne voulait donc pas révéler sa présence dans la capitale impériale et devenir la cible des autorités au cas où on découvrit la lettre. Au moment où il écrit cette épître, il est libre, et comme il tient à le rester, il ne veut pas révéler l'endroit où il se trouve. Pour cette raison, il utilise un nom de code et dit se trouver à Babylone, alors qu'en fait, il est à Rome. Pierre n'est pas mentionné ni dans la lettre de Paul aux Romains, ni pendant le séjour de l'apôtre en résidence surveillée. De toute évidence, il est arrivé à Rome après la libération de l'apôtre Paul de son premier emprisonnement et y est mort martyr quelques années plus tard. La première épître de Pierre contient de nombreuses citations de l'Ancien Testament, des allusions à des faits et à des personnages de l'Ancien Testament comme Abraham, Sarah, Noé et le déluge par exemple. Il utilise aussi le mot « diaspora » traduit par « dispersé » dans la salutation, ce qui montre que Pierre avait à l'esprit ses compatriotes juifs. Cependant, plusieurs passages sont adressés spécifiquement à des non-juifs. En effet, Pierre parle du temps de leur ignorance, puis les encourage, disant « vous avez été libéré de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. » Il écrit aussi « Autrefois, vous n'étiez pas son peuple. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » Il est évident que dans sa lettre d'encouragement aux églises d'Asie mineure, Pierre a tenu compte aussi bien des chrétiens d'origine juive que de ceux qui étaient issus du paganisme. Pierre écrit que le gouvernement romain joue encore son rôle qui est de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Cela sous-entend que l'Église n'a pas encore à subir les exactions d'une campagne meurtrière organisée par l'État. Aucune loi répressive n'a encore été décrétée contre les chrétiens. Cette épître a donc été écrite juste avant le début de la grande persécution lancée par l'empereur foudingue Néron après l'incendie qui a ravagé Rome pendant l'été 64 de notre ère. Suite à cet incident, les chrétiens qui étaient déjà calomniés de mille et une manières furent accusés de rébellion contre l'Empire parce qu'ils refusaient de participer aux actes religieux officiels. Un des thèmes importants de cette première épître est la souffrance dans l'épreuve. Il s'agit principalement de l'opposition de ceux qui rejettent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pierre mentionne la calomnie, l'injure, la violence physique, le rejet social qu'entraîne l'obéissance à Dieu, l'imitation du Christ, et tous les croyants de cette époque étaient plus ou moins confrontés à l'une ou à l'autre de ces souffrances qui ne revêtaient donc pas un caractère extraordinaire. De plus, Jésus avait averti ceux qui le suivaient qu'ils devaient s'attendre à de telles exactions. Il leur a dit « Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. » Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur comme son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Béelzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Cela dit, en filigrane, on sent déjà que dans cette lettre, Pierre voit de gros nuages noirs s'amonceler à l'horizon et ils annoncent une violente tempête. Il pressent que de sévères persécutions ne vont pas tarder. Peut-être avait-il eu vent de ce qui se tramait dans les couloirs du palais impérial, car d'après une salutation de l'apôtre Paul, on sait qu'il s'y trouvait un certain nombre de croyants. Or, comme chacun sait, les murs ont des oreilles. En fait, il est probable que certaines persécutions avaient déjà cours à Rome, un peu comme ce qui s'est passé en Allemagne nazie, à partir de janvier 1933, quand les Juifs furent considérés comme des « Untermenschen », des sous-humains. Après 1935, une fois que les lois de Nuremberg furent votées, la violence empira jusqu'à la Kristallnacht, la nuit du cristal en novembre 1938. On connaît la suite. L'épître de Pierre est une lettre de type classique avec une salutation en introduction et en conclusion. Comme dans plusieurs épîtres de l'apôtre Paul, elle débute par une louange à Dieu qui remplace la prière aux divinités qu'on trouvait dans certaines lettres de l'époque, comme par exemple « Je remercie les dieux et patati et patata, les dieux parce qu'il ne faut vexer personne, bien sûr ». L'un des objectifs principaux de Pierre est d'encourager les croyants qui passent par la souffrance due à la pression sociale et religieuse de leur entourage. Ce thème est présent dans les 5 chapitres de l'Épître. Pour fortifier la foi des croyants, Pierre leur rappelle leur situation face à Dieu et dans le monde. Ce sont des hôtes qui ne sont que de passage dans un monde mauvais. La patrie de l'Église est dans le ciel et sera révélée le jour où Jésus, qui est ressuscité, instaurera son royaume ici-bas. Ce salut futur, annoncé dans le passé, est une réalité partielle présente, malgré les souffrances que les croyants doivent encore endurer. Cette perspective spirituelle devrait les encourager à vivre les 6 impératifs qui résument le projet qu'ils ont en commun. Ce sont l'espérance, une vie sainte, un profond respect envers Dieu, l'amour, la croissance spirituelle et l'édification de l'Église qui est un temple spirituel constitué de pierres vivantes, aussi bien juives que païennes. Jésus est la pierre d'angle de cet édifice. Les croyants doivent également adopter des comportements nouveaux dans le monde où ils vivent et dans leur famille, tout en se préparant à subir des persécutions sous forme d'injustice et de souffrances diverses. Enfin, chacun doit assumer les responsabilités particulières qui lui incombent. Voilà, en quelques mots, ce que Pierre veut partager avec ses lecteurs. C'est un emploi de vie plutôt exigeant. Mais la vie chrétienne est pour les braves.